de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très ravi de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, le commentaire et d'autres infos, comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, apprendre l'indonésien et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, de l'Indonésie au monde, sur les fréquences de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et bientôt je vais vous présenter les nouvelles d'aujourd'hui. Il y a quelques événements importants à informer, entre autres. L'Indonésie appelle à mettre fin à la violence en Birmanie. Le premier ministre singapourien demande la libération de Suu Kyi. La délégation de l'entreprise de papier chinoise a rencontré le premier ministre malais. L'ambassade d'Indonésie à Ankara informe les citoyens indonésiens sur le droit du travail et l'immigration turque. Le ministre Lutfi a apprécié les activités de consultation ministérielle économique de l'ASEAN. L'autorisation d'APM en Indonésie à exporter vers l'Australie. Les matières premières médicinales basées sur la biodiversité pour l'indépendance, a affirmé le ministre de la Recherche et de la Technologie. Bon, chers auditeurs, voici la nouvelle en complet. L'Indonésie appelle à mettre fin à la violence en Birmanie. L'Indonésie appelle à la fin de la violence en Birmanie qui a eu lieu au milieu des manifestations de masse contre le coup d'état militaire contre le gouvernement civil depuis le 1er février 2021. Cette déclaration a été transmise par la ministre indonésienne des Affaires étrangères, Retno Marsudi, lors d'une réunion spéciale des ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, pour discuter de la crise politique en Birmanie mardi. Pour l'Indonésie, la sécurité et le bien-être de la population de la Birmanie sont une priorité absolue. Par conséquent, l'Indonésie a exhorté les forces de sécurité de la Birmanie à faire preuve de retenue et ne pas recourir à la force et à la violence. Lors de la réunion à laquelle a également participé le ministre nommé par l'armée birmanie, Una Maungluin, Retno a fait part de la préoccupation de l'Indonésie face à la violence croissante de la Birmanie, qui a fait des victimes, en particulier des civils qui ont perdu la vie et des blessures. Il a également souligné que là étaient toujours des arrestations de civils au milieu d'une situation qui pourrait menacer la poursuite de la transition démocratique de la Birmanie. Selon un rapport de Reuters, au moins 21 manifestants ont été tués depuis le début des émeutes il y a un mois, tandis que l'armée a déclaré qu'un policier avait été tué. Le premier ministre singapourien demande la libération de Suu Kyi. Le premier ministre de Singapour a demandé mardi à l'armée birmane de libérer la dirigeante élue Aung San Suu Kyi pour permettre au pays d'aller à l'avant et a déclaré que les sanctions nuiraient au peuple plutôt qu'aux militaires. Dans une transcription de l'entretien avec la BBC, Lee Hsien-loong a déclaré que les militaires apprendraient du passé que c'est pour l'intérêt de l'État que les militaires concluent des arrangements avec un gouvernement civil élu, parce que les moyens militaires ne vont nulle part. Auparavant, les ministres des Affaires étrangères de l'Association des Nations de l'Asie du Sud-Est, ASEAN, se sont préparés à une réunion spéciale pour discuter de la situation en Birmanie, dans un effort pour réprimer la violence meurtrière et ouvrir des voies pour résoudre l'escalade de la crise politique. La délégation de l'entreprise de papier chinoise a rencontré le premier ministre Mali. La délégation de la plus grande entreprise de papier et de carton d'Asie, Nine Dragon Paper Holding Limited, a rencontré mardi le premier ministre malais, Muhyiddin Yassin, pour s'engager à investir 5,4 milliards de ringgit malaisie, plus de 17 milliards de roupies, dans ce pays. Lors de la réunion, la délégation de l'entreprise était représentée par son chef Chong Yan et l'adjoint-chef Chang Chengfei. Pendant ce temps, Muhyiddin était accompagné du ministre principal de l'économie, qui était également le ministre du commerce international et de l'industrie, Azmin Ali, et le PDG de l'autorité malaise de développement des investissements MIDA, Azman Mahmoud. Les investissements de ce groupe en Malaisie comprennent deux installations de fabrication, à savoir ND Paper Malaisie, SDN BHD à Bentong, Pahang, qui impliquait la reprise d'une usine de papier et de pâte avec un investissement global de 1,2 milliard de ringgit malaisie, ou bien 4,2 milliards de roupies, et ND Paper de Malaisie Selangor avec un investissement de 4,2 milliards ringgit malaisie, ou bien 14,7 billions de roupies. Le projet créera 2180 emplois. Donc, près de 90% sont des emplois pour la population locale. Le projet devrait être opérationnel en 2022. L'ambassade d'Indonésie à Ankara informe les citoyens indonésiens sur les droits du travail et l'immigration turque. L'ambassade d'Indonésie à Ankara continue de s'efforcer d'informer les citoyens indonésiens de loi turque sur le travail et l'immigration, afin de renforcer les efforts de prévention visant à protéger les citoyens indonésiens par le biais d'une déclaration écrite de l'ambassade d'Indonésie à Ankara, reçue mardi par Ankara. L'ambassadeur d'Indonésie en Turquie, Mohamed Iqbal, a ensuite rappelé aux citoyens indonésiens de ce pays de continuer à améliorer leurs connaissances afin qu'ils puissent s'autonomiser et se protéger. Afin de mieux connaître la loi applicable en Turquie, l'ambassade d'Indonésie a organisé un séminaire en ligne en présentant des avocats turcs comme orateurs. En outre, cette formation devrait enrichir les connaissances et fournir une autonomie aux citoyens indonésiens en Turquie et fournir une perspective sur la résolution des problèmes à l'avenir. Pendant ce temps, Erlap Siragul, un avocat turc qui a travaillé avec l'ambassade d'Indonésie à Ankara pour gérer, dans plusieurs cas, les travailleurs migrants en Turquie bénéficient de la même protection devant la loi. Dans la pratique, selon lui, les travailleurs migrants doivent continuer à se doter des connaissances afin de ne pas être facilement manipulés. Le ministre Lutfi a apprécié les activités de consultation ministérielle économique de l'ASEAN. Le ministre indonésien du Commerce, Mohamed Lutfi, a apprécié les activités de consultation menées par les ministres de l'économie de l'ASEAN par le biais du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, ASEAN-BAC. Il a exprimé le soutien de l'Indonésie à un certain nombre de recommandations soumises par l'Asian Bank en tant qu'effort de relance de l'économie après l'épidémie de COVID-19. Cela a été dit par le ministre du Commerce dans une déclaration officielle, comme l'a rapporté mardi Antara Jakarta. La réunion de consultation des ministres de l'économie de l'ASEAN avec l'ASEAN BAC a lancé la 27e série de réunions de retraite des ministres de l'économie de l'ASEAN AEM qui auront lieu les 2 et 3 mars 2021. Le ministre Lutfi soutient fermement plusieurs priorités de l'ASEAN BAC en 2021, y compris le plan de mise en œuvre des 10 livrables économiques prioritaires. Pendant la présidence de l'ASEAN par Brunei Darussalam, les efforts dans le secteur de la santé pour surmonter la COVID-19, ouvrir les opportunités d'emploi et augmenter la capacité des travailleurs de l'ASEAN, et facilitation du commerce et traitement des mesures non tarifaires MNT dans l'ASEAN. En outre, le ministère indonésien du commerce espère également que la participation active des représentants indonésiens à l'ASEAN BAC par l'intermédiaire du président de l'ASEAN BAC en Indonésie, Bernardino Vega, pour accroître les exportations de l'Indonésie vers l'ASEAN. L'autorisation d'APM en Indonésie à exporter vers l'Australie. Le ministre indonésien de l'Industrie, Agus Gumiwang Kartasasmita, demandera au Japon de donner la permission aux agents des détenteurs de marques automobiles APM en Indonésie d'exporter leurs produits vers l'Australie. Ainsi, les producteurs indonésiens peuvent se préparer immédiatement à produire un véhicule avec un modèle qui intéresse le marché australien. C'est ce qu'a déclaré le ministre de l'Industrie dans une déclaration officielle reçue par Antara Jakarta mardi. Les produits automobiles fabriqués localement ont pu pénétrer le marché d'exportation dans plus de 80 pays dans le monde. Au cours de la période 2020, les exportations de véhicules entièrement construits, CBU, ont totalisé 232,17 milliards d'unités ou évaluées à 41,73 milliards de roupies. Pendant ce temps, les expéditions de véhicules complètement démontés, CKD, ont totalisé 53,3 000 ensemble ou évaluées à 1,23 billion de roupies et des composants jusqu'à 61,2 millions de pièces ou d'une valeur de 17,50 milliards de roupies. Le programme Making Indonesia 4.0 cible l'industrie nationale des véhicules motorisés, secteur pour devenir un acteur mondial. Les matières premières médicinales basées sur la biodiversité pour l'indépendance, a affirmé le ministre de la Recherche et de la Technologie. Le ministre de la Recherche et de la Technologie, Bambang PS Brojonegoro, encourage le développement de matières premières médicinales domestiques en utilisant l'abondante biodiversité du pays pour encourager l'indépendance de l'Indonésie. C'est ce qu'a affirmé le ministre de la Recherche et de la Technologie, Bambang Brojonegoro, lors d'un événement virtuel commémorant un an de la pandémie de COVID-19 avec le thème « Innovation indonésienne pour permettre à l'Indonésie de se redresser, de s'élever et de progresser à Jakarta mardi ». Il a affirmé qu'actuellement plus de 90% des matières premières pharmaceutiques sont encore importées de l'étranger. Par exemple, les matières premières médicinales pour fabriquer des vitamines qui sont largement consommées au milieu de la pandémie actuelle de COVID-19 sont également importées de l'extérieur. Il a déclaré que le consortium de recherche et d'innovation COVID-19 qui a été formé par le ministère de la Recherche et de la Technologie en 2021 était toujours concentré sur les efforts visant à produire des découvertes ou des innovations qui pourraient aider à surmonter la COVID-19. Bon, chers auditeurs, c'est tout les nouvelles d'aujourd'hui. Bonsoir à tous. Maintenant, c'est le temps pour moi à vous présenter le commentaire d'aujourd'hui, intitulé « Sanctions des États-Unis et de l'Union européenne sur l'affaire Alexei Navalny ». Vous êtes avec moi, Audrey. Chers auditeurs, moins de 100 jours à la tête de son gouvernement, Joe Biden a montré son attitude envers le gouvernement du président Vladimir Poutine. Le gouvernement des États-Unis a imposé des sanctions sur le cas de la figure de l'opposition russe, Alexei Navalny. La BBC rapporte que Washington a imposé des sanctions à un certain nombre de hauts responsables russes impliqués dans l'empoisonnement d'Alexei Navalny. Des sanctions ont été imposées à cet haut responsable russe et à 14 groupes soupçonnés d'être lié à un empoisonnement et à la production du poison utilisé dans la tentative de tuer Navalny. En vertu des sanctions, les États-Unis ont gelé les avoirs de hauts responsables russes aux États-Unis. Les deux hauts responsables russes comprennent le chef de l'agence de renseignement russe Alexander Bonnikov et le vice-ministre de la Défense Alexei Krivoruchkov. Bien que les sanctions ne visent pas directement le gouvernement russe, les sanctions de Washington visaient en fait le gouvernement. Les rapports des services de renseignement américains ont conclu que le gouvernement russe était à l'origine de l'attaque contre Navalny, qui est toujours détenu dans une prison de Moscou. Le cas de la figure de l'opposition russe est devenu un élément déclencheur pour le gouvernement des derniers, après avoir appelé Vladimir Poutine. Joe Biden a déclaré qu'il clarifierait sa position sur le gouvernement russe sous Vladimir Poutine en adoptant une position plus ferme que le président Donald Trump. Le gouvernement russe a réagi à l'attitude et aux mesures des États-Unis avant que les sanctions ne soient pas imposées. Le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que l'Occident avait injustement puni la Russie. Selon Lavrov, les pays occidentaux ont des faits cachés qui peuvent en fait être utilisés pour comprendre ce qui est arrivé à Navalny, qui était un fervent critique de Vladimir Poutine. Le gouvernement de Moscou, dans un communiqué, a nommé les pays occidentaux avec l'intention de désigner les États-Unis et l'Union européenne qui sont les alliés de Washington. En fait, l'Union européenne a également annoncé des sanctions contre 4 responsables du gouvernement russe en relation avec l'empoisonnement et la détention de Navalny. Les actions de l'Union européenne ainsi que des États-Unis contre le gouvernement russe dans le cadre de l'affaire Alexei Navalny peuvent jusqu'à présent être considérées comme tout à fait mesurables. Pour l'Union européenne elle-même, les sanctions imposées peuvent encore être fondées sur la considération que la Russie est un pays important. Au moins en termes d'économie, l'Allemagne, par exemple, est toujours très dépendante de la Russie, qui est le principal fournisseur de gaz du pays. Par conséquent, tant les États-Unis que l'Union européenne ont réagi en imposant des sanctions indirectes au gouvernement de Poutine, mais visaient toujours certaines personnes, tout en appelant à la libération de Navalny. Bon, cher auditeur, c'est tout le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
وقو انتقال فيروس كوفيد-19 من خلال ارتداء الأقنعة بشكل صحيح قناعي يحميكم وقناعكم يحميني
رانج جنشوي بيتاي كوجو يفانشي سينسين قوانجوان بيندو فييان دا چوانبو ودى كوجو باوهوني يدى كوجو باوهو
evite la difusión del coronavirus, cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Bonsoir à tous, l'histoire d'aujourd'hui va commencer avec l'événement du 3 mars 1974, l'accident d'avion de Turkish Airlines. Le 3 mars 1974, 346 personnes sont mortes lorsqu'un avion de Turkish Airlines s'est écrasé en France. L'avion décédit du vol 981 de McDonnell Douglas transportait 335 passagers et 11 membres d'équipage. L'avion de la compagnie Turkish Airlines reliant l'aéroport Atatürk d'Istanbul à l'aéroport de Londres Heathrow s'écrase dans la forêt de Mononville près de Paris. L'appareil s'écrase quelques minutes après avoir décollé de l'aéroport de Paris Orly où il venait d'effectuer une escale. L'accident est dû à l'ouverture d'une porte de chute en plein vol causée par un défaut de conception dans le système de verrouillage. La perte de pression d'air dans la cabine a déchiré le fuselage et endommagé tout le système hydraulique de l'avion. Il s'agit du deuxième accident survenu au DC-10 en raison du système de verrouillage incomplet de la porte de chargement. L'autre information est sur la journée mondiale de la vie sauvage, le 3 mars. Le 3 mars 1973, le texte de la CITES, ou Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvage menacées d'extinction, a été adopté par les Nations Unies. Lors de la 16e conférence de CITES à Bangkok en 2013, les participants à la conférence ont proposé aux Nations Unies que le 3 mars soit déclaré et commémoré comme Journée mondiale de la vie sauvage. Le 20 décembre 2013, l'Assemblée générale des Nations Unies a finalement fixé le 3 mars comme journée spéciale pour apprécier la biodiversité mondiale, en particulier les animaux et les plantes sauvages. En effet, le 3 mars 2014, la Journée mondiale de la vie sauvage était commémorée pour la première fois. Nous finissons l'histoire d'aujourd'hui avec l'événement de 3 mars, la Journée mondiale de l'oreille et de la santé auditive. La commémoration a commencé le 3 mars 2007 lors de la première conférence internationale sur la prévention et la réadaptation de la perte auditive à Pékin, en Chine. La conférence a abouti à la déclaration de Pékin en fixant le 3 mars comme Journée internationale des soins de l'oreille ou Journée mondiale de l'oreille et de la santé auditive. En Indonésie, cette commémoration n'a commencé qu'en 2010. Chers auditeurs, c'est l'histoire d'aujourd'hui pour ce soir.
Ku memanggil namamu di setiap tak ada kamu.
Aku mati, 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 mati jika engkau pergi.
Dengarkah sayanganku, jangan tinggalkan aku. Tak mampu jika ku tanpamu.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici Mon Indonésie et pour le titre, PMI Manufacturier Indonesia reste à un niveau expansif. L'industrie manufacturière indonésienne montre toujours une tendance positive au milieu de l'impact de la pandémie de COVID-19. Cela s'est reflété par l'atteinte de Purchasing Manager Index, ou PMI manufacturier en février, qui était à 50,9 ou à un niveau expansif qui est supérieur à 50 selon IHS Market. Ainsi, PMI manufacturier indonésien au cours des 6 derniers mois consécutifs a été à un niveau expansionniste. Le ministre de l'Industrie, Agus Gumawang Kartasasmita, a apprécié les acteurs de l'industrie qui luttent toujours pour gérer leurs affaires au milieu de la pression pandémique. Il l'a dit dans un communiqué officiel publié lundi. Agus Gumawang est optimiste qu'avec les diverses politiques stimulées lancées par le gouvernement dans un effort pour raviver l'enthousiasme des acteurs commerciaux et pour restaurer l'économie nationale, PMI manufacturier indonésien continuera d'être à un niveau expansionniste. Il a ajouté, d'autant plus que le gouvernement indonésien vient de fournir une incitation fiscale sous la forme d'une réduction du taux de la taxe de vente sur les produits de luxe qui est chargée par le gouvernement pour les véhicules motorisés. Selon le ministre de l'Industrie, cette politique augmentera la confiance des acteurs de l'industrie et augmentera le pouvoir d'achat des citoyens. Il espère que le PMI le mois prochain pourra passer au-dessous de l'indice 50. Les résultats de l'enquête IHS Market ont montré que la production LN nouvelle commande a continué d'augmenter et que l'aspect d'emploi approchait de la stabilité. D'autre part, la société est toujours très optimiste quant à l'augmentation de la production au cours des 12 prochains mois. Une autre note positive est que la production a augmenté pendant 4 mois consécutifs et que l'entreprise continue d'augmenter sa production en ligne avec la croissance de la nouvelle demande durable. Même les nouvelles commandes ont fortement augmenté en février ou du moins au cours des 3 derniers mois. L'augmentation de la production et la nouvelle demande durable encouragent actuellement les entreprises à accroître leurs achats et à limiter les licenciements. Cependant, plusieurs entreprises ont noté les perturbations causées par la pandémie de COVID-19. Répondant aux résultats de PMI Manufacturier Indonésia en février, le directeur de l'économie de HS Market, Andrew Harker, a déclaré que le nombre actuellement croissant des cas de COVID-19 indique que la pandémie continue de perturber les opérations. Cependant, le secteur de la fabrication était encore relativement résilient en février. Pendant ce temps, l'activité de travail continue de se rapprocher de la stabilité. Andrew Harker soutient que malgré les perturbations liées à la pandémie, l'optimisme de la société concernant les prévisions de l'année prochaine n'a pas diminué dans l'espoir que la pandémie se terminera bientôt. Chers auditeurs, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie, la diffusion en français.
Old-fashioned way, just like they do in old movie. When Romeo meet Juliet, when Harry met Sally, no emojis, and we don't need IG story. We just say what we wanna say to a love letter and poetry. I wanna sing a song that'll make you smile. I want to buy a flower just for you. So let me take your hand. We take a walk at night across the city until the morning sun. Even if the rain falls down, we're still dancing in the rain. Baby, let's fall in love like the old fashioned
should wait. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way. Let's fall in love just for you and me, like the old-fashioned way.
Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. J'espère bien que vous aimez la chanson. Alors, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, maintenant, nous allons présenter le magazine culturel. Bonne écoute.
Chers amis, bonsoir. Nous continuons notre émission ce soir avec la rubrique du magazine culturel. Aujourd'hui, nous vous invitons à visiter l'île de Liaga. Le nord de Sulawesi n'est pas seulement connu pour son beau tourisme à Manado ou Bunaken, mais maintenant l'attention des touristes se tourne également vers les destinations super prioritaires de Likupang. Cette destination se trouve au nord de Minahasa, Sulawesi du Nord. Maintenant, dans la zone économique spéciale de Likupang est en cours de construction de nombreuses raisons pour nous de visiter Likupang. Les destinations touristiques à Likupang ne sont pas moins belles que les autres destinations touristiques populaires du nord de Sulawesi. L'une d'elles est l'île de Liaga. L'île de Liaga est une île inhabitée située dans le district de Likupang au nord de la résidence de Minahasa. L'île ne fait que 8 hectares de large, pas trop grande, mais a un potentiel touristique énorme. De loin, il semble que cette île possède une plage de sable fin et blanc qui contraste avec le bleu de l'océan. Ceux qui le voient sont impatients de descendre et de toucher ce sable blanc pour. Liaga également un monte sous-marin intéressant. Vous n'avez pas besoin d'aller loin. Juste de la plongée ou la plongée en apnée près de la plage permet de voir de nombreux poissons nager dans les deux sens. Pour atteindre l'île de Liaga, vous devez voyager environ 90 minutes de la ville de Manado à Likupang ou au port de Serai. Après votre arrivée à Likupang, vous devez continuer le voyage pendant environ 40 minutes en utilisant un bateau de pêche local. Le prix de location du bateau est d'environ 800 000 rupiah pour 20 passagers. Même si l'île est inhabitée, vous n'avez pas à vous inquiéter car cette île dispose de toilettes et de vestiaires. Vous pouvez également passer la nuit sur l'île de Liaga sans vous soucier de payer à nouveau, mais bien sûr, vous devez fournir votre propre équipement de tente car dans cet endroit, personne ne fournit de tente. De plus, si vous prévoyez de visiter et de passer la nuit sur l'île de Liaga, n'oubliez pas d'acheter d'abord de la nourriture et des boissons, car il n'y a pas de stand vendant de la nourriture sur l'île de Liaga. Il n'y a pas d'installation et d'infrastructure pour les destinations touristiques sur cette île, mais pour ceux d'entre vous qui aiment l'aventure, la nature de l'île de Liaga semble avoir tout fourni. Chers auditeurs, c'était le magazine culturel pour ce soir. Merci de votre attention. Rendez-vous demain, même heure et même fréquence. À demain.
bersamamu sengaja tuk habiskan waktu tuk temani jiwaku jiwa yang selalu ada untukmu selalu kau yang berbeda untukku hanyalah dirimu di sini tetaplah engkau di sini temani diriku.
Chers auditeurs, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était une belle chanson? Alors vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc Apprendre l'indonésien. Bonne écoute! Bonsoir à toutes et à tous, on se retrouve dans l'émission Apprendre l'indonésien, une rubrique qui vous présente des vocabulaires indonésiens et vous guide pour parler indonésien. Cette émission est une collaboration entre Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie, c'est la station de radiodiffusion à l'étranger de Radio République Indonesia, avec l'Agence nationale pour le développement et le renforcement de la langue du ministère indonésien de l'éducation et de la culture. Vous êtes avec moi Audrey. Le sujet d'aujourd'hui est Perumahan paling bersih. Perumahan paling bersih. En français, le logement le plus propre. Bonne écoute. Chers amis, ensuite je vais vous donner un exemple de conversation en indonésien intitulé Perumahan paling bersih. Perumahan paling bersih. En français, le logement le plus propre. Cette conversation se déroule entre Kevin et Boris, son nouveau voisin. Boris voulait savoir pourquoi Kevin se sentait bien habité chez lui dans ce logement. Bonne écoute.
Kevin, mengapa kamu betah tinggal di sini?
Karena ini perumahan paling bersih di kelurahan ini.
Chers amis, après avoir fait écouter la conversation, je vais vous introduire des expressions et des phrases liées au sujet d'aujourd'hui. Perumahan paling bersih. Perumahan paling bersih. En français, c'est logement le plus propre. Je vais prononcer doucement et lentement chaque mot ou chaque phrase deux fois, et puis vous pouvez me répéter. De quatre, en français, proche ou près de. Paling bersih, en français, le plus propre. Perumahan, perumahan, en français, logement. Kelurahan, kelurahan, en français, village ou sous-district. Chers amis, dans la conversation, vous avez entendu une expression « Ini perumahan paling bersih ».« Ini perumahan paling bersih ». En français, c'est le logement le plus propre. Dans cette expression, il y a le mot « paling ».« Paling ». En français, « le plus ». Le mot « paling »,« paling », »,« le plus » est utilisé pour exprimer des comparaisons superlatives. En plus de « paling »,« paling », »,« le plus », le préfixe « ter ». Ter, le plus, suivi d'adjectifs comme de quatre ou bien ter de quatre, de quatre ou bien ter de quatre, c'est-à-dire proche et le plus proche, et bersi, ter bersi, bersi, ter bersi, en français, propre, le plus propre, peut également être utilisé pour exprimer des comparaisons superlatives. Et voici un autre exemple pour représenter des comparaisons superlatives. Boris, mengapa kamu betah tinggal di sini? Mengapa kamu betah tinggal di sini? En français, pourquoi vous sentez-vous bien chez vous ici? Kevin, karena ini perumahan paling bersih di kelurahan ini. Karena ini perumahan paling bersih di kelurahan ini. En français, parce que c'est le logement le plus propre de ce village. Boris, mengapa kamu betah tinggal di sini? Mengapa kamu betah tinggal di sini? En français, pourquoi vous sentez-vous bien chez vous ici? Kevin, karena ini perumahan terbersih di kelurahan ini. Karena ini perumahan terbersih di kelurahan ini. En français, parce que c'est le logement le plus propre du village. Chers amis, avant de terminer, apprendre l'indonésien pour comprendre mieux, écoutons encore une fois la conversation. Bonne écoute.
Kevin, mengapa kamu betah tinggal di sini?
Karena ini perumahan paling bersih di kelurahan ini.
Chers auditeurs, voilà l'édition d'apprendre l'indonésien pour ce soir. J'espère que cette édition pourra être utile pour vous. Merci de votre attention et d'être fidèle avec nous. Au revoir.
Ku dengar derai
Chers amis, c'était la quatrième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3,3-5 kHz et sur le site web www.voinews.id. Chers auditeurs, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à tous, vous écoutez toujours la voix de l'Indonésie et maintenant je vais vous présenter le magazine musical. Cette fois, vous allez écouter une chanson de Java occidental intitulée Kalangkang. Chers auditeurs, Kalangkang de Sundanese qui signifie ombre. Les paroles de la chanson Kalangkang racontent la romance d'un couple. Les deux s'aiment et se partagent un sentiment de bonheur. La beauté de la relation était initialement imaginaire, mais est devenue plus tard réalité. Les paroles décrivent également « Si vous aimez, vous devez rechercher l'amour pour y parvenir ». La chanson Kalangkang a été créée par Nano S. Cette chanson a été présentée dans l'album Kalangkang, qui a été publié en 1988 et popularisé par Nining Meida. Bonjour, Jeter, voici la chanson de Java occidental intitulée Kalangkang, chantée par Nining Meida. Bonne écoute. Thank you. Chers amis, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter @boyindonesia et d'Instagram @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook The Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.